Bonsoir. Budget 2008, présenté hier par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Le budget n'est pas encore jugé recevable par l'Assemblée nationale, d'où les observations et critiques des députés nationaux poursuivis ce mercredi sur ce budget devant le Premier ministre Antoine Gizenga et son gouvernement. Quelles sont les grandes lignes de ce projet de budget? L'enveloppe budgétaire 2008 va-t-elle améliorer le salaire des fonctionnaires, la santé, l'éducation et les infrastructures? C'est de cela que nous parlons dans cette émission. En parcourant vos réactions, Kelly Moussina, vous êtes auditeur de Kikwit au Bandundu, peut-être auditrice, c'est pas encore précis. Vous demandez au gouvernement d'allouer une grande part de ce budget à la santé et à l'éducation. Désiré Lotima d'Isiro dans la province orientale pense que le budget 2008 présenté par le Premier ministre devra accomplir les 5 chantiers du chef de l'État. Dans le cas contraire, il invite le Parlement à prendre ses responsabilités. Joseph Kassongo, résident à Wyss en Belgique, pense que si le budget 2008 est voté, ce sera pour faire plaisir au FMI et à la Banque mondiale et non au peuple congolais, car, estime-t-il, le taux d'inflation est de 8%, au même titre que le taux de croissance, et le produit intérieur brut, le PIB, est toujours bas. Dialogance congolaise reçoit aujourd'hui Lems Kamonya. Il est chargé de projet au COPIREP, comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. Nous avons aussi dans ce studio le professeur Kabanga. Il est professeur aux facultés catholiques, spécialement de l'économie. Nous devrions aussi recevoir des députés nationaux, Hubert Massala et Adam Bombolet. Ils sont encore pris dans leur plénière jusqu'au moment où nous vous parlons.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
Budget 2008 présenté hier par le Premier ministre Antoine Gizenga à l'Assemblée nationale. Quelles en sont les grandes lignes? On écoute un extrait de l'adresse du Premier ministre Antoine Gizenga devant l'Assemblée nationale. Il donnait le résumé du projet de ce budget.
En ce qui concerne ce budget 2008, on peut noter une stratégie d'investissement axée de manière plus résolue et plus précise sur les 5 chantiers du président de la République et du gouvernement. En effet, près de 70% de l'enveloppe globale vont au secteur prioritaire suivant. Infrastructure, 41%. Énergie, 14%. FSP, 5%. Santé, 5%. Agriculture et développement rural, 3,5%.
Lems Kamonya, quand vous suivez ce budget, du moins le résumé donné par le Premier ministre Antoine Gizenga, quelles sont votre première réaction à ce sujet?
Oui, ma réaction c'est qu'un budget c'est d'abord ce que le gouvernement vous présente, les possibilités qu'il a d'avoir des recettes et de quelle manière il compte les dépenser. En fait, un gouvernement ne peut pas dépenser des sous qu'il n'a pas. Ce qui fait que le budget tel qu'il a été présenté représente la capacité pour l'État de mobiliser ses recettes et la manière dont il entend les dépenser. Et c'est là que je vais cadrer mon intervention. En matière de recettes, je constate que les réformes nécessaires n'ont pas été mises en œuvre pour escompter une enveloppe consistante des recettes. C'est ce qui explique la part congrue en matière de recettes budgétaires qui nous a été présentée cette année. Parce qu'un budget, vous savez, c'est d'abord des prévisions, des intentions. Mais quand on va rentrer dans la réalisation, on peut se rendre compte que ce budget-là a été réalisé à 50-30%. À ce moment-là, si vous prévoyez, par exemple, 3 milliards de recettes et que vous ne pouvez les mobiliser quand vous allez exécuter à 60%, ça vous donne une idée exacte sur la hauteur des recettes qu'on peut escompter. Ça, c'est la première difficulté. Les recettes n'ont pas été suffisamment importantes, étant donné que la plupart des réformes qu'on voulait mettre en œuvre n'ont pas été suivies. En matière de dépenses, moi, je me dis de ce côté-là, le gouvernement peut avoir des excuses parce qu'il n'est pas dit qu'il n'y a que l'État qui est l'unique intervenant dans la vie économique. Dans notre pays, on a déjà arrêté l'option de libéralisation économique. Oui. À ce moment-là, il y a un partage de dépenses entre les investissements publics et les investissements privés qui doivent être réalisés. Les gouvernements ou l'État vous dit par rapport à mes recettes, voici la part de ce que moi je peux investir, et l'autre part doit exactement être investie par le secteur privé, à condition que les gouvernements mettent en place des mesures d'incitation pour pousser les privés à pouvoir investir dans d'autres secteurs. Mais par rapport au secteur prioritaire tel que cela a été retenu, moi je crois que le Premier ministre a raison. D'abord, il se concentre sur les secteurs prioritaires, sauf la santé et l'éducation qui reçoivent des parts qui sont tellement modiques. Et cela nous inquiète quand on voit la grève des paramédicaux, quand on voit les menaces des enseignants. Et je crois que de ce côté-là, il faudrait quand même saluer accroître un peu le budget qui est octroyé à la santé et à l'éducation. La part consacrée aux infrastructures prend une part trop importante et écrase un peu la part réservée à d'autres secteurs prioritaires tels que la santé et l'éducation. Oui. Voilà un peu la première lecture que je peux donner sur base de ce budget.
Oui, on y reviendra évidemment pour voir comment justement cette répartition de toutes ces affectations pourra améliorer la vie des Congolais. Professeur Kabanga, et quelle est votre lecture, votre appréciation de ce projet de budget?
Oui, je peux aborder peut-être dans le même sens. Quand on regarde tout simplement la répartition du budget, 41% du budget sont affectés aux infrastructures, 14% à l'énergie, l'éducation, la santé et l'agriculture, non au total que 13,3% en raison de 5 et 3,5%, ça me pose tout de même des problèmes. On dit très souvent que la RDC, c'est un grand pays. Moi, je pense qu'un pays comme la RDC doit avoir une vision de grandeur, c'est-à-dire on doit raisonner en grand.
Vous pensez que ça manque dans ce budget?
Oui, c'est effectivement, ça manque dans le budget, c'est-à-dire qu'on est trop minimaliste. Ce n'est pas bon pour un grand pays comme la RDC, un pays qu'on considère comme étant un scandale géologique, mais qui présente un budget de 3,3 milliards de dollars, ça m'inquiète quand même. Et puis quand vous regardez, on dit qu'il faut qu'il y ait donc la santé pour tous d'ici l'an 2015. Ça fait partie des objectifs de développement du millénaire, la santé pour tous d'ici l'an 2015, mais avec un budget de 5%, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand je regarde au niveau de l'éducation, quand vous regardez les réformes au niveau de l'enseignement, il est bien dit qu'il faut que tout enfant à l'âge d'être scolarisé puisse aller à l'école. Et l'État avait pris aussi un engagement de mettre en place, c'est toujours dans le cadre de ces réformes, avec l'appui de la Banque mondiale et du PNUD, de disponibiliser à peu près 460 dollars par mois et par école pour soutenir les écoles dans leur fonctionnement. Et ce montant jusqu'à là, bon, il y a eu par-ci par-là où ça a été donné, mais pas 460, mais, et cela c'était pour faire quoi? C'était peut-être pour mettre fin à la contribution des parents, que les parents qui prenaient en charge, par exemple, les enseignants, puissent affecter les montants qu'ils donnaient pour la contribution dans des écoles, dans le budget de ménage. Alors avec cela, ça pouvait peut-être avoir un impact sur le social et la pauvreté.
En fait, pour vous résumer, professeur, vous rejoignez en fait l'EMS Kamonia, c'est que des secteurs comme l'éducation, voilà, et la santé ont un très faible, une faible part dans ce budget.
Ok, j'ai toujours raisonné en termes d'une croissance ou d'un développement en quelque sorte équilibré. Et quand vous regardez un pays comme la RDC à 80%, c'est l'agriculture qui domine à 80%. Donc 80% de la population congolaise s'occupe de l'agriculture. Alors ce qui fait que ça signifie que la RDC a un avantage comparatif dans ce domaine-là. Mais quand je vois un budget de 3,5%
pour
l'agriculture, et en plus de cela, il y a un ministre d'État qui est à la tête, avec ces billets, je me pose des questions.
Voilà, vous vous posez des questions, des auditeurs aussi se les posent. Budget 2008, présenté hier par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Quelles sont les grandes lignes de ce budget? Vous avez suivi les interventions du professeur Kabanga des facultés catholiques. Il est de la faculté de l'économie aux facultés catholiques. Lems Kamonya, chargé de projet au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. Je signale qu'on devait avoir des députés nationaux, Hubert Massala de l'ANP et Adam Bombolé du MSC. Ils sont empêchés par la plénière. Nous revenons vers vous, Lems Kamonya. Avant, évidemment, d'aborder ce budget 2008, vous avez déjà donné vos premières réactions. Mais c'est quoi le bilan, hein? Quelques mots, le bilan du budget 2007, quand même.
Oui, bon, le bilan de 2007, c'est un bilan qui est vraiment lamentable parce que, vous savez, c'était un budget de 2,5 milliards, équilibré aussi en recettes et en dépenses. Et ce budget, il a été consommé, il a été exécuté, je dirais, en matière de recettes à concurrence de 57,5% pour les 8 premiers mois. Et en matière de dépenses, je crois que ça a été 54,5% pour les 8 premiers mois, donc jusqu'au 31 août 2007. Et quand vous voyez au niveau des recettes, ce qui est inquiétant, c'est que sur les 2 milliards qu'on est compté dépenser pour ces trimestres, ces deux premiers quadrimestres, on a seulement exécuté 57. Donc c'est pratiquement la moitié du budget qui a été exécutée. Et quand vous regardez, il y a deux causes profondes. D'abord, c'est la DGRAD qui a réalisé des contre-performances manifestes parce qu'elle n'a pu réaliser que 36% de ses assignations. Et il y a toutes les ressources extérieures attendues, notamment le CPPE, pour lesquelles aucun dollar n'a été encaissé jusqu'en 2008. Ce qui fait que les recettes extérieures sur lesquelles qui représentaient plus de 47% du budget n'ont été réalisées qu'à plus ou moins 10%. Et les contre-performances de la DGRAD ont fait que l'État s'est retrouvé finalement globalement avec des recettes de l'ordre de, une exécution de l'ordre de 57,5%.
Oui, en termes simples, ça veut dire quoi?
Cela signifie, par exemple, sur les 2 milliards qu'on comptait percevoir, on a pu percevoir que 1 milliard 100 millions. C'est-à-dire 1 milliard 300 millions. Donc, il y a une perte de 700 millions de dollars qu'on n'a pas su réaliser. Et tant qu'on n'a pas ces sommes-là, c'est difficile que l'État puisse exécuter les moyens de sa politique, entre autres investir dans les secteurs prioritaires. Ça, c'est en ce qui concerne les recettes. Déjà, on voit qu'il y a une faible mobilisation. Cela signifie que toutes les sommes inscrites par l'État pour dire pendant cette année, je vais avoir telle somme, mais on n'arrive pas à les réunir, même pas aux trois quarts de ce montant. Ça, c'est quand même inquiétant, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de dépenses de l'État ne seront pas financées, et tout ce qu'on attend comme amélioration du risque de la population ne peut pas suivre, parce que l'État n'a pas été en mesure de mobiliser, de recouvrer l'ensemble des recettes qu'il est compté avoir au cours de cet exercice. Mais ce qui est aussi très inquiétant, c'est en matière de dépenses. Je crois que le gouvernement a pratiqué ce qu'on appelle en termes économiques une politique d'austérité budgétaire, c'est-à-dire vous dépensez moins par rapport à vos recettes. Ça, c'est une très mauvaise politique et vous constaterez que quand on dit on dépense moins, ce sont les secteurs prioritaires tels que l'éducation, tels que les interventions économiques et sociales, même les rémunérations, pour lesquelles on a payé moins que ce qui était prévu. Alors, à ce moment-là, par exemple, en termes de rémunération, vous verrez que pour les 8 premiers mois, oui, les taux a été de 71%, ce qui signifie qu'il y a 29% d'arriérés de salaire qui n'ont pas été payés, alors que l'État avait quand même des recettes. Et ce qui choque, c'est que l'État vous dit, j'ai réalisé un bonus parce que mes recettes ont été supérieures aux dépenses. Mais vous avez des dépenses.
Donc on n'a pas tout dépensé.
Vous ne voulez pas dépenser, vous voulez appeler ça un bonus, vraiment un bonus qui est fictif, qui n'a pas de sens. Moi, je crois que l'État devrait plutôt engager une politique de dépenses publiques comme le voulait le chef de l'État, engager les grands travaux. Notre pays n'est même pas à reconstruire, il est à construire totalement, c'est-à-dire les dépenses sont tellement énormes. Oui. Mais vous avez des faibles recettes que vous dépensez encore simplement pour dire on a dépensé moins que nos recettes, on a fait une performance. Et je crois que ce n'est pas une bonne performance. Donc le budget 2007 tel qu'il a été exécuté, vraiment c'est inquiétant et on ne peut pas s'attendre à grand-chose.
Oui, voilà, ça c'est votre analyse. Et vous, professeur Kabanga, juste sur le bilan 2007, avant de voir comment le budget 2008 pourra améliorer la vie des Congolais, vous avez déjà donné votre première réaction sur le budget 2008 tel qu'il a été présenté. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aussi sur le budget 2007? Vous avez suivi l'EMS Camoya, il dit qu'il y a 700 millions de recettes non prévues dans le budget 2007, mais qui n'ont pas été réalisées. Et puis l'État n'a pas dépensé comme c'était prévu. Donc l'État a préféré dépenser moins que prévu.
Effectivement, je peux aborder dans le même sens. Quand on prend le budget 2007, vous le remarquerez qu'il y a eu des critiques autour de ces budgets quand ces budgets étaient présentés. Il y a eu des réaménagements. On souhaitait assez qu'on aille au-delà de ces budgets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'on a fait les réaménagements, il fallait que ces budgets rentrent encore de nouveau au Parlement pour que ça soit examiné. Ce qui n'a pas été le cas. Vous voyez, ça pose automatiquement déjà un problème.
Oui.
Et aussi, et avant de présenter ces budgets, le minimum qu'on pouvait faire, c'était de rentrer d'abord au Parlement avec, sur le budget 2007, expliquer en grande ligne, et à partir de là, on pouvait. C'est ce qu'on n'a pas fait.
Oui.
C'est ce qu'il fallait en principe faire.
Oui.
On a fait des réaménagements, mais ces réaménagements n'ont pas été présentés au Parlement pour une adoption.
Merci, professeur Kabanga. La réalisation me signale que nous avons en ligne le député national Hubert Massala. Bonsoir, Hubert. Vous venez de terminer la plénière, c'est ça?
Oui, bonsoir, monsieur Claude. Nous venons effectivement d'en terminer.
Ouais. Voilà, donc nous sommes déjà en pleine émission avec l'EMS Camoya du COPIREP, hein, Comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, et le professeur Donatien Kabanga, il est de la faculté d'économie aux facultés catholiques de Kinshasa. Déjà, ils ont donné chacun sa première réaction sur le budget et ont commenté même sur la réalisation du moins du budget 2007. Avant de voir par la suite ce que le budget 2008 pourra améliorer dans la vie des Congolais. Et c'est quoi votre première réaction sur ce budget, d'ailleurs que vous appuyez, hein, le budget 2008?
Oh, oui, j'appuie le budget dans la mesure où les recettes, du moins au niveau interne, ont connu un accroissement assez significatif. Vous savez qu'en 2007, les recettes internes, parce qu'il n'y a pas de recettes internes, parce que c'est sur ces recettes-là que nous pouvons fortement compter, étant donné que les recettes extérieures sont conditionnelles et souvent on ne les a pas. C'est ainsi que les recettes internes sont passées en 2007 de 1 milliard 600 millions de dollars, et maintenant dans le budget de 2008, on prévoit ces recettes au niveau de 1 milliard 0.9 millions de dollars américains. Ce qui fait que les chiffres augmentent de 300 millions de dollars américains. Et quand vous voyez les budgets de l'État depuis l'année 1975, l'année au cours de laquelle avait éclaté la crise économique qui a persisté jusque quasiment à ce jour, aucune année les recettes ou les budgets de l'État n'ont enregistré un accroissement des recettes de plus de 150 millions de dollars américains. D'où, dans un premier temps, il faut reconnaître l'effort manifeste du gouvernement qui prévoit déjà une augmentation qui se trouve être sensible. Ça, c'est la première des choses. Bien sûr, il y a des contraintes sur lesquelles nous pourrons parler, mais dans un premier temps, il faut louer cette augmentation, même s'il est vrai que cette augmentation ne va pas permettre de résoudre d'une façon optimale le problème qui se pose dans notre pays.
Oui, on va y revenir parce que vous venez d'arriver, il y a l'EMS Camoya notamment qui venait de dire que déjà, le bilan du budget 2007, les recettes annoncées n'ont pas été réalisées. Hein. Il a parlé de 700 millions de recettes, notamment non réalisées l'année dernière. Mais nous allons voir dans la deuxième partie de cette émission le budget 2008 qui a été présenté par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette enveloppe 2008 va améliorer le salaire des fonctionnaires, la santé, l'éducation et les infrastructures? Les réponses dans cette deuxième partie de l'émission Dialogue entre Congolais. Nous recevons Hubert Massala, député national de l'AMP et premier vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale, le professeur Kabanga Donatien, professeur aux facultés catholiques, spécialement à la faculté d'économie. Nous avons aussi l'EMS Camoya chargé de projet au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. Nous aurions aussi voulu recevoir évidemment Ada Bombolé, mais nous pensons peut-être qu'il n'a pas pu nous rejoindre
comme Hubert Massala.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Budget 2008, je vous l'ai dit, présenté par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Les discussions se sont poursuivies jusque ce mercredi. L'enveloppe 2008 va-t-elle améliorer le salaire des fonctionnaires, la santé, l'éducation et les infrastructures? Au PPRD et à l'AMP, les députés saluent les efforts fournis par le gouvernement pour élaborer un projet qui tient compte des entités décentralisées, quoique l'enveloppe allouée à ces entités ne soit pas suffisante. On écoute Jean-Charles Okoto, il est député national PPRD.
Et je crois que nous avons focalisé les efforts pour que ce budget soit doté musclément sur tout ce qui concerne la décentralisation. Je sais que c'est un premier pas. Le panier qui a été alloué n'est pas suffisant. Mais moi, je crois que la manière dont le gouvernement a présenté le budget, nous saluons. Je crois que c'est la petite couchette financière qui a été allouée n'est pas suffisante. Mais je crois qu'à la longue, je crois que les choses vont s'améliorer. Il faut encourager les initiatives quand elles sont prises.
Du côté de l'opposition, ce projet de budget a fait l'objet de critiques de la part notamment des députés du MLC pour ses parlementaires. Ce budget doit être rejeté parce qu'il ne tient pas compte des revendications sociales. François Mwamba, député national du MLC, est au micro de Agathe Fonin.
Nous demandons le rejet, ce n'est pas un caprice. Un budget, c'est la traduction en chiffres de la politique d'un gouvernement. Avant de faire un budget, il faut avoir un programme. L'opinion sait que nous avons dit que ce gouvernement n'avait pas de programme. Sans un programme, on ne peut même pas parler du budget. Alors ça veut dire qu'on est en train de bricoler. On nous a promis que lorsqu'on présenterait le budget 2007, nous allions avoir ce programme en termes chiffrés. Ça n'a pas été le cas, tout le monde le sait, puisque à l'occasion de la présentation du budget, on nous a dit qu'il y aura un collectif budgétaire qui va reprendre à son compte les préoccupations que nous avions exprimées au nom de la population. Il n'y a pas eu de collectif budgétaire 2007 et nous sommes au regret de constater que le budget 2008 ne vient même pas donner des réponses par rapport à ces préoccupations passées. On ne prend pas en compte la base à partir de laquelle un programme de ce gouvernement aurait pu être monté, c'est-à-dire les 5 chantiers, les préoccupations sociales. Nous demandons à ce qu'on rejette ce document dont nous avons du mal d'ailleurs à qualifier de budget.
Hubert Massala, vous êtes de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale, hein. Vous êtes premier vice-président, vous êtes aussi député national de l'AMP. Comment vous pensez améliorer le vécu quotidien des Congolais? Nous pensons là aux fonctionnaires, à la santé, à l'agriculture et aux infrastructures. Lorsque déjà ce budget accorde 3,5% à l'agriculture, et on l'a dit, hein, 5% à la santé, 5% aussi à l'éducation, comment pensez-vous améliorer la vie des Congolais avec ces montants?
Oui, le problème n'est pas surtout de voir qu'on accorde 5% à ceci ou 3% à cela. Le grand problème au départ, c'est de voir quelle hauteur en termes absolus des moyens qu'il faudra affecter dans les différents secteurs. Vous savez, si je prends un exemple simple, si un papa a 100 beignets et qu'il dit qu'il va donner 10% de ses beignets à un enfant, c'est que l'enfant a 10 beignets. Mais si le papa n'a que 10 beignets et il dit qu'il va donner 10% de ses beignets à un enfant, l'enfant n'aura qu'un seul beignet. Donc le grand problème pour nous n'est pas nécessairement sur l'aspect de la part relative. Si aujourd'hui nous avions un budget tel qu'on en a dans certains autres pays, par exemple qui ont des budgets de 100 milliards, par exemple de dollars, et qu'on dise qu'on donne 3% de ce budget, par exemple, au secteur agricole. Mais vous trouvez, ce sont des milliards qui vont aller dans ce secteur. Donc, il faut qu'on cesse avec ce raisonnement de voir que des parts tout à fait relatives. Or, effectivement, la grande préoccupation pour nous, c'est que le budget à la fois est faible sur le plan des chiffres absolus. Ça ne fait même pas en termes de ressources internes, ça ne fait même pas 2 milliards de dollars, ça fait à peine 1,9 milliard. Et sur les 1,9 milliard, déjà insuffisant, on donne une part relative également faible. Donc c'est une combinaison de ces deux faiblesses qu'il faut mettre en exergue. Oui. Et là, c'est pour souligner que notre pays doit comprendre que ce qui est important d'abord, ce sont des parts absolues. Il faut que ce qui entre dans la cagnotte de l'État en termes de recettes soit important. Si les Congolais paient des impôts, si les impôts payés par les Congolais sont drainés dans les trésors, vers les trésors, à ce moment-là, on va voir que c'est la piste pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Tout le reste n'est que spéculation.
Oui, oui, donc là, vous dites d'abord qu'il faut essayer de relever l'enveloppe budgétaire, mais déjà, comment est-ce que cette enveloppe de 3,3 milliards de dollars, parce que le projet de budget 2008, comment il sera réalisé lorsque déjà en 2007, Hubert Massala, 700 millions de recettes n'ont pas été réalisées? Comment pensez-vous cette fois-là atteindre même ce qui est prévu?
Oui, parce qu'il faut distinguer les recettes extérieures, qu'on appelle les recettes exceptionnelles, et les recettes courantes, qui sont les recettes internes. Là où nous avons la maîtrise, une certaine autonomie, et sur le quoi nous pouvons priser, ce sont les recettes internes. C'est pourquoi il ne faut pas prendre le budget de 3,3 milliards, il faut prendre de part la partie que nous maîtrisons. Ce sont des recettes internes qui ne sont que de 1,9 milliard de dollars américains. Alors, c'est ainsi que même pour le budget 2007, effectivement, la partie qui revenait aux ressources extérieures n'a été exécutée que très faiblement. Parce que là, il y a beaucoup de conditionnalités, les partenaires extérieurs ont leurs conditions qui nous imposent, et parfois que nous ne réalisons pas,
oui,
et à ce moment-là, ils ne libèrent pas la bourse.
Oui, il y a eu des dépenses aussi, vous avez moins dépensé que prévu, hein, Hubert.
Oui, il est vrai aussi que le gouvernement est là, nous réprochons également, le gouvernement a été assez regardant par rapport à certaines dépenses qui étaient tout à fait pressantes et auxquelles il n'a pas pu faire face. Mais de deux choses, il faut s'agir, ou de deux mots, il faut s'agir le moindre. Parce que le gouvernement pouvait commencer à faire des dépenses qui pouvaient être au-delà des moyens, et à ce moment-là, les conséquences allaient se répercuter sur les cadres macroéconomiques. Qu'est-ce qu'on allait voir? Les taux d'inflation qui allaient galoper. On allait voir maintenant la balance commerciale qui allait devenir tout à fait aussi déficitaire. Mais le gouvernement, certainement, je n'encourage pas ça, a préféré garder cette stabilité parce qu'il y a deux façons de pouvoir accorder le pouvoir d'achat à la population. Soit vous essayez de bien garder les prix, à ce moment-là, chacun essaye de pouvoir gérer les moyens dans une certaine stabilité. Ou alors, vous leur ôtez cette stabilité-là, c'est que vous leur ôtez également le pouvoir d'achat. Il suffit de faire des dépenses budgétaires élevées et le taux d'inflation accroît. À ce moment-là, ça ne vaut pas la peine.
Oui, oui, merci Hubert Massala. Et James Kamonya, vous avez suivi Hubert Massala. Pour lui, il dit que déjà, au départ, on ne doit pas s'attarder sur la part qui est réservée notamment à l'éducation, à la santé et même à l'énergie. Là, on sait que c'est 14%. Mais finalement, est-ce que la population congolaise peut espérer que sa vie sera améliorée avec ce budget?
Ah oui, d'abord, là, ce qu'il faut préciser, c'est qu'un budget, ce n'est qu'une prévision. Ensuite, il faut réaliser. Le problème, c'est que les écarts entre les prévisions et les réalisations deviennent de plus en plus importants. C'est ce qui nous inquiète. Parce que quand un budget, vous l'exécutez à 57%, 55%, il y a assez d'inquiétude pour qu'on se demande la hauteur exacte de ce budget. Ce que le gouvernement devrait faire, c'est donner de plus amples explications sur les mesures qu'il compte mettre en œuvre, les réformes qu'il envisage mettre en œuvre, de façon que les recettes qui sont prévues au budget soient mobilisées de manière maximale, ou bien presque à 100%, même plus de 85%, ou même 90%. À ce moment-là, on est au moins sûr que le gouvernement maîtrise les côtés recettes. Mais la côté dépenses, là, c'est là qui se pose des problèmes. Si je prends par exemple les cas de l'enveloppe des fonctionnaires de l'État, les chiffres qui ont été repris dans le budget 2008, c'est pratiquement les mêmes chiffres repris dans le budget 2007. Il n'y a pas eu tellement d'accroissement. Seulement, les gouvernements envisagent passer au niveau des effectifs parce qu'on constate qu'il y a un nombre important du personnel fictif et que si ce nombre-là est élagué du fichier des fonctionnaires, la réduction qui va s'en suivre va permettre d'accroître les salaires. Donc ça, c'est l'option qui a été arrêtée par le gouvernement. Encore faudra-t-il que cette option soit mise en œuvre le plus rapidement possible pour que les fonctionnaires s'attendent à une augmentation substantielle de leur rémunération. Et il faudrait qu'on ait leur préparation. Alors ça, c'est sur ce point-là. Mais globalement, qu'on parle en termes relatifs, qu'on parle en termes d'enveloppe, moi, je crois, si vous prenez les pourcentages, vous l'appliquez à l'enveloppe budgétaire, globale, vous trouverez la part en valeur absolue, comme voulaient nous le faire croire les députés Uber. Mais la réalité, c'est que les montants alloués restent presque les mêmes, et ça, c'est ce qui inquiète. Mais ce qui est encourageant, c'est du côté infrastructure. Oui. Effectivement, c'est un domaine qui demande des ressources importantes parce que les investissements sont des investissements qui sont lourds. Les 41%, ce n'est pas peut-être, c'est peut-être pas trop élevé, mais quand on regarde les degrés de délabrement de la plupart des infrastructures, à ce moment-là, on s'est dit, il faudrait cette fois-là bien dépenser son parce qu'il ne faudrait pas qu'on les confie à des entrepreneurs qui gèrent les travaux, et ils acquisent que l'État ne paye pas. Vous voyez, même les travaux de la voirie urbaine, ce sont les mêmes routes qui ont été réhabilitées à l'intérieur.
Quelle est la qualité du travail?
Alors, quelle est la qualité du travail qui est faite? À ce moment-là, nous risquons de tourner en rond, c'est-à-dire on peut se retrouver avec les prévisions qui, le chef d'État avait avancé de dire on peut asphalter plus ou moins, je ne sais pas, 5000 km de route, on peut ne pas arriver parce qu'on ne fait que tourner en rond sur la même chose. Donc là aussi, il faudrait qu'il y ait une explication de ce qui est fait. Il faudrait que l'État libère, parce que quand vous posez la question aux entrepreneurs, ils vous disent si les travaux traînent, si les travaux sont de basse qualité, parce que déjà ils dépensent faiblement, et ensuite ils doivent déposer le port de vin à ceux-là qui leur octroient ces marchés. Le gouvernement devrait être conséquent avec lui-même par rapport à d'autres secteurs, tels que la santé. Parce que dans le budget, quand on parle de 3% affecté à la santé et l'éducation, là, c'est en termes d'investissement. Et je crois ici, l'explication que le gouvernement peut donner, c'est de se dire, bien entendu, le gouvernement prend ses problèmes à bras le corps, mais il lance l'appel, par exemple, à des personnes de bonne volonté. On a vu une tombe qui veut construire un hôpital, ça rentre dans le cadre des infrastructures hospitalières. Ce que l'État peut faire, c'est tel montant, mais peut-être chercher d'autres partenaires qui peuvent l'aider à réaliser d'autres investissements dans ce secteur compte tenu de ces recettes qui ne sont pas tellement importantes. Mais le souci majeur reste l'amélioration du niveau des recettes. Aujourd'hui, on s'est dit que le gouvernement a contracté un emprunt auprès des Chinois. Aujourd'hui, on parle des revenus qui doivent provenir de la résiliation des contrats miniers. Toutes ces recettes-là, ce sont autant de sources que l'État devrait explorer pour accroître son espérance de recettes afin que qu'on soit en mesure de multiplier les investissements et s'attendre à des choses qui sont importantes. Mais quand vous prenez le budget 2000 par rapport à 2008, les taux d'augmentation est tellement faible qu'on ne peut pas s'attendre vraiment à des grandes choses au point de vue social.
Merci, Ilham Sekamonia. Professeur Donatien Kabanga, est-ce qu'il faut finalement que le gouvernement, comme le souhaite Ilham Sekamonia, est-ce qu'il faut que le gouvernement précise les réformes de mobilisation de recettes qu'il doit mener? Vous avez suivi là, il a évoqué même les accords signés avec les Chinois, la revisitation des contrats miniers, on peut même y ajouter l'exploitation du pétrole dans la zone commune avec l'Angola. Est-ce qu'il faut que le gouvernement précise tout cela pour voir comment il peut mobiliser suffisamment de recettes, accroître le budget et améliorer la vie des Congolais?
Oui, merci beaucoup. Je reste au niveau de recettes courantes. Quand je regarde par exemple le recettes de douane et accises, ça représente en pourcentage quand même un gros montant. Mais la question que je me pose, est-ce que on peut mobiliser ce montant? Ça, donc il y a un problème qui se pose. Et quand vous regardez la plupart des recettes qui sont ici, ce sont des recettes traditionnelles. Donc, on manque un peu d'imagination. On retrouve toujours la même chose. L'OFIDA, DGI, DGRAD, c'est exactement la même chose.
Enfin, d'imagination dans la mobilisation. D'imagination
dans la mobilisation des recettes pour qu'on aille un peu au-delà. Donc, on reste figé. Donc, on a un esprit qui est en quelque sorte fixe, qui est borné, qui reste limité à un point bien déterminé. Donc, il faut qu'il y ait une ouverture des horizons. Qu'on essaye de nous proposer autre chose en matière de mobilisation de recettes.
Oui.
Et puis quand on raisonne en termes de réformes, il faut qu'il y ait des réformes pour arriver même à mobiliser ces recettes. Qu'est-ce que moi je vois là-dedans? Quand on dit que l'OFIDA doit donner ici en termes de recettes, c'est à peu près, j'ai essayé un peu de faire le calcul, 780 millions de dollars. Ça signifie quoi? Ça signifie que ça va trop peser sur les entreprises. Donc, en matière d'importation, c'est qu'on va essayer d'aller au-delà. Mais moi, je crois que au lieu de miser dans ce sens-là, en gardant le même matière, il y a une possibilité de réduire les taux d'imposition et d'élargir l'assiette fiscale. Peut-être en ce moment-là, ça peut pousser même les Congolais, au lieu de négocier, ils vont préférer peut-être veiller. En ce moment-là, ça sera bénéfique pour tout le monde.
Oui. Alors, on va maintenant poser la question à Hubert Massala, puisque vous êtes de l'ANP, vous soutenez ce budget. Pourquoi, puisque c'est quand même un projet de budget, est-ce que en revoyant ce budget, est-ce que vous avez pensé à intégrer les 8 milliards de premiers accords avec la Chine, la révisitation des contrats miniers, l'exploitation du pétrole dans la zone commune, parce que là, il y a Lems Kamoanya et le prof Kabanga qui demandent à ce que le gouvernement, dans ce budget, montre des nouvelles réformes pour mobiliser les recettes.
Et effectivement, les préoccupations exprimées là par les profs et notre ami Kamoanya sont très pertinentes, mais des questions aussi qu'ils posent. Nous, au niveau de l'Assemblée, on s'est laissé poser aussi parce que le problème, par exemple, du financement chinois. Nous avons exprimé notre inquiétude, surtout que dans la procédure d'élaboration du budget ici, l'Assemblée n'intervient qu'à ce niveau ici de l'examen. Mais vous savez, certains éléments soulevés là relèvent notamment de la configuration du budget. Lorsque on fait préfigurer les budgets au niveau du gouvernement, lorsque le gouvernement va avec les partenaires extérieurs essayer de donner la note définitive du budget préfiguré. Et à ce moment-là, nous autres, au niveau de l'Assemblée, nous apparaissons seulement, du moins le document que nous analysons, nous l'avons justement où le gouvernement arrive. Et nous avons posé cette question-là, nous attendons chez les familles que le Premier ministre va rentrer pour donner des réponses à ces préoccupations du député. Sinon, je ne sais pas vous le dire maintenant, je ne peux pas préjuger des réponses qu'il va pouvoir fournir, mais ce sont des préoccupations effectivement réelles.
Juste en quelques... Je vais vous demander de répondre en une minute, hein, parce que c'est une transition pour passer aux réactions des auditeurs, parce qu'il y en a qui disent, comme Joseph Kassongo de Belgique, lui dit que ce budget ne tient pas compte des besoins, des désirs ou des désidératas de la population. Il fait juste plaisir au FMI, à la Banque mondiale. Vous pensez qu'il a raison?
Ah oui, mais le problème, c'est que il faut savoir que sur le plan strictement budgétaire et même monétaire, c'est que nous avons beaucoup de liens avec ces partenaires extérieurs. Et c'est nous qui courons vers eux. Nous pouvons nous en départir. Mais le problème, il faut que nous ayons à mobiliser nos moyens ici, localement. Or, là, sur ce plan, nous avons une culture fiscale tout à fait déficiente. Oui. Parce que, moi, je vous parle, je suis député, et nombreux sont ceux qui, comme moi, depuis quand moi, j'ai payé l'impôt, depuis encore moi, mes enfants. Oui. Et que nous payons des fiscs. Regardez peut-être nos prévisions de recettes. Les recettes qui reviennent, donc, de tout ce qui est lié à l'immobilier, par exemple. Oui, c'est un problème.
Oui, je vous arrête là. D'abord, on va prendre Claude Kanza, qui a fait son entrée dans ce studio, pour nous donner les réactions des auditeurs.
Merci Jean-Claude. Anatole Madimba de Kindu au Maniema nous fait savoir que ce budget 2008 ne pourra pas suffire pour satisfaire les besoins vitaux de la population, d'autant plus que celui de 2007 n'a rien laissé de concret pendant les 6 mois de son exécution. Pour sa part, Longulu Bainde Fils de Mbandaka dans l'Équateur suggère que pour plus de transparence, ce budget doit démontrer en quoi il va résoudre les problèmes sociaux des Congolais et permettre la réalisation des 5 chantiers du chef de l'État. Quant à Charles Palolo du Butembo Nord-Kivu, il pose la question suivante: pourquoi le budget de la RDC est plus petit que celui des pays voisins et quels sont les critères à suivre pour élaborer un budget? Enfin, Jules Lubuma de Kinshasa salue l'accroissement du budget 2008 par rapport au budget 2007, mais il se demande ce que vaut cette amélioration si, d'après lui, le pouvoir d'achat de la population reste constamment menacé par la hausse vertigineuse des prix de biens de première nécessité.
Merci beaucoup, Claude Kanza. Je reviens vers vous. D'abord, vous, Lems Kamoanya, avec cette question de Charles Palolo de Butembo Nord-Kivu, lui se demande pourquoi le budget de la RDC est inférieur à celui des pays voisins. Faut-il rappeler que, à moins que je me trompe, c'est 30 milliards en Angola pour 12 millions d'habitants, et c'est presque 3 milliards au Congo-Brazzaville pour à peu près 7 millions d'habitants. À moins que je me trompe, votre réponse, Lems Kamoanya.
Ah oui, donc disons ici que Le budget d'un État ne tient pas compte ni de ses ressources naturelles, ni du volume de sa population, mais ça tient compte de la capacité de l'État de mobiliser les recettes.
Et pourquoi c'est inférieur à la RDC que dans les pays voisins, justement?
Oui, c'est pourquoi, par exemple, quand on établit un budget, il y a ce qu'on appelle la pression fiscale. Il faut voir les conditions économiques globales. Il faut voir quel est le volume d'activité économique et dans ce volume-là, la capacité qu'a l'État de pouvoir récupérer la fiscalité en termes d'impôts sur les importations et exportations, en termes d'impôts indirects et en termes d'impôts sur des ressources non fiscales, en termes de revenus que retire l'État de ces différents investissements. Quand vous allez en Angola, ils ont, en Angola comme au Congo-Brazza, ils ont d'importantes ressources qu'ils retirent du secteur pétrolier.
C'est que nous,
à ce jour, on n'est pas encore en pleine exploitation pétrolière et les quelques privés qui exploitent le pétrole, nous avons des conventions minières, des conventions pétrolières avec elles qui sont décriées, qui passent actuellement sous audit. Je pense que si l'État parvient à exploiter encore mieux le pétrole avec l'Angola, si on arrive à revisiter les conventions pétrolières, et que ça est une véritable phase d'exploitation, il y a moyen d'accroître les ressources qui proviennent d'autres sources que la fiscalité intérieure et extérieure, tout comme aussi des ressources non fiscales.
Merci, Lems. Hubert Massala, là, c'est la question de Longulu Baende, fils de Mbandaka, à l'Équateur. Lui, il suggère que pour plus de transparence, ce budget doit démontrer en quoi il va résoudre les problèmes sociaux des Congolais et permettre la réalisation des 5 chantiers du président de la République.
Mais ce budget ne peut résoudre ce problème que lorsqu'il va s'afficher et être important. Mais permettez-moi, M. Claude, que je puisse davantage un peu insister sur la question pourquoi notre budget est faible. Je crois que c'est ça qui résume presque.
Allez-y, mais soyez bref.
Je vous dis qu'il y a des pays, notamment en Afrique, qui vivent ce qu'on appelle la situation des rentes. Et nous l'avions vécu ça à l'époque du cuivre.
C'est quoi?
C'est-à-dire que quand la rente, c'est le fait que, supposons que vous ayez une maison à côté d'un camp militaire. Dès qu'il y a des problèmes de sécurité, vous êtes protégé parce que les gens ont peur d'arriver chez vous. C'est que vous êtes dans une situation de rente du fait que votre maison est proche de... Alors, les pays qui produisent, par exemple, le pétrole aujourd'hui, donc, sans qu'ils aient une forme, ils ont du pétrole, ils bénéficient de cette rente parce que le pétrole augmente de prix. Et nous avons eu la rente à l'époque du cuivre. C'est ainsi que les pays étaient financièrement bien situés. Nous vendions du cuivre qui coûtait très bien.
Et il est en hausse aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, le cuivre.
Oui, le cuivre, mais nous ne l'exploitons plus. La Gécamine est en faillite, ça vous savez. Est-ce qu'il y a même la hausse? Oui, c'est ça. Alors, c'est aussi que les pays comme l'Angola, comme le Congo, comme la Libye, comme le Nigeria ont une situation de rente. Alors, quand on n'a pas cette situation de rente, il faut compter, comme a dit notre intervenant. Oui, il faut nécessairement produire pour que vous basiez votre fiscalité sur ce que vous produisez. Or, chez nous, on ne produit pas, et nous, les pays qu'on produit, les gens ne veulent pas payer les impôts, la population non plus. Alors, la caisse de l'État est vide.
Voilà, on va passer maintenant à une autre question avec Jules Lobouma de Kinshasa. Lui, il salue l'accroissement du budget 2008 par rapport à celui de l'année passée, mais il se demande ce que vaut cette amélioration si le pouvoir d'achat de la population reste constamment menacé par la hausse vertigineuse des prix de biens de première nécessité. Professeur Kabanga.
Oui.
Qu'est-ce que ça vaut cette amélioration, hein, demande Lobouma Jules de Kinshasa, si avec la hausse des prix, il ne ressente pas cette amélioration?
Oui, mais c'est ce que je pourrais raisonner en termes d'une augmentation virtuelle. Pour un Congolais de commun des mortels, un Congolais peut raisonner en termes de croissance, ou bien un accroissement de 8%, ce n'est que quand il voit ça dans son assiette. C'est là où réside le grand problème.
Donc on peut tout dire.
C'est que le problème qui est là pour la RDC,
oui.
C'est quoi?
Oui.
Je peux considérer la situation de la RDC comme une situation de quelqu'un qui est dans un trou. Donc on est resté trop longtemps dans une période de récession. Ce n'est que dans les 2002, avec la mise en place 2001-2002, avec la mise en place du programme Pire et Peg, que le Congo est sorti de la zone de récession pour entrer dans une zone de dépression.
Essayez de vous résumer maintenant.
Ok. Mais pendant ce temps-là, c'est que vous connaissez la situation du pays. Donc, le président lui-même l'a bien nommé en disant les 5 chantiers. C'est-à-dire que le Congo, c'est un chantier qu'il faut reconstruire. Donc, il n'y a rien
toutes les infrastructures sont dans un état de délabrement très avancé.
Est-ce que ça sera en 5 ans?
Non, je ne pense pas. Avec une croissance économique de 8%, je ne pense pas qu'on peut y arriver en 5 ans. Il faut que ça soit une croissance économique qui va au-delà de 8%, c'est-à-dire au moins 10%.
Merci, professeur Kabanga. C'est avec vous que nous clôturons cette émission Dialogue entre Congolais. Pour les Munkeo était à la mise en onde. Kéline Côté l'a réalisé. Claude Tianza était à la préparation. Merci à tous de nous avoir suivis. Et bonne suite de programme sur Radio Capitale.